explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac!
Notre existence a-t-elle un sens? Comment réussir sa vie? Voici le genre de questions qui taraudaient Frédéric Lenoir lorsqu'il était encore adolescent. Comme tous les adolescents, me direz-vous, peut-être avec un peu plus d'insistance dans son cas, puisque ces questionnements l'ont conduit à suivre des études de philosophie et de sociologie des religions. Alors qu'il avait une vingtaine d'années, il s'est même rendu à Dharamsala pour apprendre la méditation auprès de lamas tibétains. Il a également séjourné dans des ermitages ou des monastères en France. Ses expériences n'ont pas fait de lui un moine. Frédéric Lenoir est devenu philosophe, sociologue, journaliste, écrivain, mais la quête spirituelle dans laquelle il s'est engagé, il y a un peu plus de 40 ans, ne s'est jamais interrompue. Son dernier ouvrage s'intitule « Les chemins du sacré » aux éditions de l'Observatoire, un voyage à travers les 5 continents à la rencontre de femmes et d'hommes, eux aussi engagés dans une quête spirituelle, qu'elle soit religieuse ou laïque. Cet après-midi, des peintures des aborigènes d'Australie, aux joutes philosophiques des nonnes bouddhistes, en passant par les chemins de Compostelle, Frédéric Lenoir nous emmène dans un sacré tour du monde. Et en fin d'émission, avec le journaliste Nicolas Legendre, nous irons nous promener sur les monts bretons, du Mont Dol au Mont d'Arrée. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser, avec à la technique aujourd'hui Tristan Gratalon. Soyez toutes et tous les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Bivouac. Daniel Fievé.
Night time. À
la nuit, avant d'aller me coucher, je parle à l'étoile. Je médite. Je me repose mentalement. Mon esprit se vide et il peut recevoir l'énergie de l'étoile. Dans notre culture, on a des relations avec la terre, les animaux, les arbres, les herbes. On a aussi une relation avec le ciel.
Ainsi parle Wanga, aborigène. Nous commençons donc ce bivouac en Australie, dans le bush. Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Vous vous intéressez depuis longtemps à la culture du peuple natif d'Australie, les aborigènes. Ce lien dont il parlait à l'instant, cet aborigène Wanga, ce lien avec la nature et le cosmos, vous y êtes particulièrement sensible.
Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai toujours ressenti un lien personnel, vital, fort avec le monde, avec la nature, avec le ciel. Je peux, déjà enfant, adolescent, je pouvais passer des heures la nuit à regarder les étoiles et à m'émerveiller. Et puis, je me sens bien dans la nature. C'est vrai que j'ai l'impression que la nature, pour moi, a toujours été vivante. J'ai jamais considéré la nature simplement comme un environnement joli dans lequel on peut se promener. Mais quand je sens des arbres particulièrement beaux et tout, j'ai l'impression d'être en présence, pas simplement d'une chose, mais peut-être de quelqu'un, c'est-à-dire d'une force qui est là, qui veut transmettre quelque chose. Et d'ailleurs, je suis très intéressé de voir tous ces livres qui sortent depuis quelques années sur la sociabilité des arbres, sur la manière dont ils communiquent entre eux. Donc on est en train de s'apercevoir que la nature est un organisme vivant. Bon, ce que nous disent évidemment les peuples animistes depuis toujours.
Ouais. Alors votre ouvrage nous emmène dans ce bush australien dont la pensée des aborigènes entre en résonance avec la vôtre et avec celle de bon nombre de peuples et de civilisations sur notre planète. Et dans ce bush australien, vous avez notamment rencontré Lance Sullivan. C'est une des rencontres qui vous a particulièrement marqué. Qui est-il, Lance Sullivan ?
Alors, Lance Sullivan, c'est ce qu'on appelle un clever man, c'est-à-dire un homme médecine, ce qu'on appelle un chaman dans d'autres traditions, notamment en Sibérie. C'est-à-dire, c'est un homme qui communique avec la nature, qui sert de lien, d'intermédiaire entre la communauté, le groupe humain et la nature, le reste du monde. Et il dialogue avec les esprits de la nature, notamment pour apporter la guérison. Et c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que j'avais envie d'aller en Australie. C'est la première fois que j'y étais à l'occasion de ces tournages. Et ça a été vraiment une rencontre très forte, très émouvante. Déjà avec la terre australienne. Ouais. On a passé comme ça plusieurs semaines dans le bush où il n'y a rien. Quoi. Ouais. C'était, on faisait des centaines de kilomètres. On ne voyait pas âme qui vive.
Ça ressemble à quoi le bush australien ? Situez-nous un peu.
C'est très désertique, ouais. En fait, avec partout des cailloux, si vous voulez, rouges, etc. Dont des monticules de rochers. Un peu d'arbres, mais c'est pas une forêt non plus. C'est un peu une savane, hein, dans lequel on voit des animaux, des kangourous passer, etc. Donc c'est un immense espace sans qu'on voit âme qui vive pendant voilà des centaines de kilomètres. Et là, on a campé. Donc on vivait, on couchait à la Belle Étoile, quoi. On campait avec trois aborigènes, dont Lance Sullivan et son fils, puisqu'il y avait son fils qui doit avoir 12-13 ans, qui cherchait à transmettre un peu ses traditions.
Et d'ailleurs, quand vous vous installez, hein, quand vous installez votre campement, un hélicoptère se pose à un moment avec le fermier, actuel propriétaire des terres qui en descend, et racontez ce qui se passe parce que c'est assez symbolique et de la tragédie que vivent ces aborigènes.
Là, on a vécu dès le départ, en fait, de manière très concrète, le drame des aborigènes, qui sont des gens qui ont toujours vécu là. Lance Sullivan, de ces terres-là, ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, ils étaient là. C'est-à-dire qu'ils ont vécu là. On a vu leurs tombes, etc. Mais ils ont été dépossédés de leurs terres, comme ils n'avaient pas d'acte de propriété. Quand les Blancs sont arrivés, ils ont dit « ces terres sont à personne ». Et donc, on les prend. Ce qui fait que là, clairement, l'État a vendu un fermier blanc qui faisait des mines de je ne sais pas quoi sur ces terres. Il est arrivé en hélicoptère pour vérifier ce qui se passait « chez lui », entre guillemets. Et on a vu l'humiliation qu'ont subi les aborigènes d'être obligés de demander la permission d'être là, alors que c'est la terre de leurs ancêtres, et d'amener une équipe de tournage. On a senti vraiment tout le malheur qu'il portait. Et en même temps, j'ai vraiment été frappé de voir que les aborigènes, tout en acceptant cette situation de fait qui les font beaucoup souffrir, ils ont le sentiment qu'ils nous plaignent davantage, nous.
Ouais.
Et à un moment donné, il m'a dit « Mais ceux qui ont tout perdu, ce ne sont pas nous qui avons perdu nos terres, ce sont vous, les hommes blancs, les hommes occidentaux, qui avez perdu ce lien vital avec la nature. Ouais. » Et ça m'a fait réfléchir.
Ouais. Alors ce lien vital avec la nature, avec aussi les ancêtres, vous le ressentez, ils vous emmènent dans une grotte, ce sont plutôt des abris rocheux, hein, ouais. Parce que c'est encore très éclairé, et il y a ces peintures rupestres qu'ils vous montrent, qui représentent d'ailleurs des animaux, hein,
des kangourous.
Des kangourous dont ils se sentent très proches.
Ah oui, c'est l'animal totem. Hein. Donc c'est aussi une chose tout à fait étonnante que je ne connaissais pas du tout. Il y a effectivement des grottes où sur les parois, un peu comme Lascaux, on voit des mains qui ont été marqués, des hommes, des personnages. Alors là, c'est plus rare, évidemment, dans nos peintures rupestres à nous, mais on voit des représentations humaines et beaucoup de kangourous. Et alors, ce qu'ils font, c'est que comme les parois sont un peu exposées à la lumière, ce ne sont pas des grottes totalement dans le noir, eh bien, chaque génération, tous les 20-30 ans, ils prennent leur sang, il nous a fait c'était vraiment spectaculaire. Il prend son sang, il le mélange avec de l'ocre et il repeigne les peintures. Ouais. Et il nous dit, ça c'est fait de génération en génération depuis des milliers d'années. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'ils maintiennent, je dirais, ces peintures très anciennes.
Ce qui lui fait dire, Lance Sullivan, quand on nous demande comment savez-vous que c'est votre pays, je réponds, analyser l'ADN de ces peintures et tester mon sang.
Oui, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on verra que c'est le sang qui est le même que celui de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, et ça sur des dizaines de générations. Mmh. Il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup frappé et assez choqué, c'est que il nous a amené à un moment donné dans un endroit où il y avait une autre cavité rocheuse, où ce sont normalement les tombes de ses ancêtres, et les ossements avaient été dispersés. Et je lui dis, mais comment, qui peut faire ça? Il dit, ce sont les fermiers blancs, puisque une des preuves qu'on peut avoir que ces terres nous appartenaient, c'est qu'il y a les tombes de nos ancêtres. Et donc, ça veut bien dire qu'ils ont vécu là et depuis des générations. Et bien, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, et comme c'est accessible, hein, ce sont des tombeaux ouverts, et bien, du coup, ils enlèvent les ossements et ils les dispersent dans la nature. Donc là, il y a toute une cérémonie où les aborigènes ont repris les ossements, ils les ont fumés pour les purifier, et ensuite, ils les ont remis dans les cavités.
Alors, dans votre parcours à vous, Frédéric Lenoir, très tôt, vous vous êtes intéressé au grand courant philosophique et spirituel. Dès l'adolescence, en fait, ces questions vous taraudent presque depuis l'enfance.
Oui, mais comme beaucoup d'enfants. Ouais. Vous savez, je fais beaucoup d'ateliers de philosophie avec les enfants. Ouais. dans le cadre de ma fondation qui s'appelle Sève, hein, ça veut savoir être et vivre ensemble, dans lequel on forme des animateurs à faire des ateliers de philosophie. Et quand on fait un atelier avec des enfants, dès l'école primaire, dès le CP, 6 ans, 7 ans, et on dit aux enfants de quoi vous voulez parler, ils vont vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est qui Dieu? La vie a-t-elle un sens? C'est quoi être heureux? Ce sont les grandes questions métaphysiques. Ouais. Les enfants sont des petits philosophes, ouais. Et puis, comme dit Michel Onfray très justement, certains le restent. Ouais. Mais au fond, tous les enfants sont des petits philosophes.
Alors vous l'êtes resté, vous êtes, là c'était un peu plus tard, hein, après une vingtaine d'années, vous êtes même engagé dans une voie monastique pendant 3 ans. C'est-à-dire que vous auriez pu devenir prêtre, vous auriez pu devenir moine.
Pas prêtre, moine oui, parce que j'ai une fibre mystique, ouais. Que j'aurais pu vivre de plein de manières. C'est-à-dire que dans une culture aborigène ou autre, eh ben, j'aurais peut-être, ou en Inde, j'aurais peut-être été un sannyasin, etc. J'ai un côté contemplatif. Mmh. Vous avez compris que j'aime la nature, j'aime la solitude, j'aime le recueillement, c'est-à-dire j'aime aller à l'intérieur de moi. J'ai appris la méditation il y a longtemps. Et donc, effectivement, j'ai une fibre mystique qui m'a poussé à vivre cette expérience monastique. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour la vie monastique. C'est-à-dire ni une vie communautaire, ni une vie de chasteté à vie. Je peux tenir quelques années, mais j'aurais pas tenu plus longtemps. Donc, il valait mieux partir. Ouais. Et puis surtout, je me sentais enfermé dans une communauté religieuse avec des dogmes, qui me conviennent pas. Puisqu'au fond, je suis très universel. Je m'intéresse à toute la diversité des quêtes spirituelles et des sagesses du monde, de la philosophie aux grandes religions et leur tradition mystique. Et donc, j'ai vite étouffé dans le carcan de l'Église.
Ouais. Alors, vous avez gardé cet intérêt pour le sacré, mais quelle définition vous donnez au sacré exactement, Frédéric Lenoir ?
Alors, c'est vrai que je ne donne pas la définition la plus courante. La définition la plus courante, elle a été inventée par Émile Durkheim, qui est le fondateur de la sociologie, où il distingue, en observant les grandes traditions religieuses de l'humanité, une distinction entre le sacré et le profane. Il nous dit que toutes les religions distinguent le sacré, les temples, les synagogues, les mosquées, etc., du profane, c'est-à-dire le reste du monde, qui n'est pas sanctifié par les religions. Et c'est cette distinction qu'on a gardée dans notre monde moderne, parce que on nous dit ce qui est sacré, c'est ce qu'on met à part, c'est ce qui est au-dessus de tout. Mmh. Et on dira les droits de l'homme, c'est le sacré des sociétés modernes, etc. Bon. Moi, je prends une définition plus universelle, plus anthropologique, qui est celle de Rudolf Otto, qui nous dit le sacré, c'est ce sentiment universel que ressent tout être humain, qu'il soit religieux ou pas, devant la beauté du monde, devant la force de la nature, la puissance de la nature et le mystère de la vie. Ouais. Et donc, d'un coup, on se dit, il y a quelque chose qui nous dépasse. Eh oui. Et on dit, c'est sacré parce que ça nous dépasse.
Mais ce n'est pas forcément lié à une croyance ou à une religion. Ça peut être laïque, le sacré.
Mais complètement. Ouais. Notre ami André Comte-Sponville, qui est un philosophe athée et matérialiste, me dit, j'ai vécu une expérience bouleversante du sacré, quasi mystique, dans la nature, devant la beauté de la nature. À un moment donné, je me suis senti faisant partie du tout. Je n'étais plus en dualité avec le monde, je faisais partie du monde et j'ai vécu une expérience de simplicité, d'amour, le cœur était ouvert, etc. Et donc, on peut tous ressentir ça. Mon ami Hubert Reeves également, qui est un astrophysicien très connu, il est complètement athée, mais lui, il nous dit, quand je suis dans la nature, je ressens qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a une harmonie, il y a la beauté du cosmos, elle m'émeut, elle me dépasse et le mystère du monde m'échappe toujours.
Ouais. Alors d'ailleurs, dans les mystères du monde, vous vivez, alors là, on change d'endroit, vous allez au Guatemala, vous assistez, vous rencontrez des guides spirituels mayas, ce sont 4 femmes, elles vont se livrer à un rite chamanique devant des volcans, et là vous assistez à quelque chose de sublime.
Ah oui, tout à fait, ce qu'on appellerait une belle synchronicité, comme dit Jung, c'est-à-dire que pendant le rituel chamanique, qui a duré 6 heures, donc c'est très long, ça commence la nuit, le jour se lève, et puis ces femmes dansent autour d'un feu, elles font des offrandes, et elles remercient la nature. Donc c'est vraiment, elles appellent ça notre mère nature, elles remercient la nature. Et à un moment donné, un des volcans rentre en éruption devant nous. Et c'était très spectaculaire, parce qu'on a une énorme fumée, le bruit et tout. Et ça arrive, mais pas tous les jours. Ouais. Donc là, évidemment, le fait que ce soit arrivé pendant le rituel, ça donne une émotion très particulière et un peu de sens à ce qu'elles font.
Nous allons marcher avec vous dans un instant avec des pèlerins, alors sur le chemin de Compostelle, mais aussi en Inde et en Éthiopie. Frédéric Lenoir nous emmène bivouaquer sur les chemins du sacré à travers le monde cet après-midi sur France Inter.
À la fois
C'était Pomme, les cours d'eau sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bonjour monsieur.
Dites-moi où nous sommes.
C'est juste en face du fort rouge, le temple Jain. Les grands principes de la religion de base, c'est la non-violence.
Non-violence. And secondly, live and let others live.
Vivre et laisser les autres vivre.
Je vois que vous faites attention à tous les animaux. On m'a dit que les Jains faisaient très attention aussi avec les insectes par terre, comme ça, pour balayer devant les insectes.
Les Jains se promènent dans les bois et ils cueillent les plumes de paon. Avec ça, ils fabriquent leur balai et ils balayent devant eux pour ne pas tuer les fourmis, les moustiques, tous les insectes par terre. Tous sont égaux devant Dieu.
Un balai fait de plumes de faisan pour ne pas faire de mal aux insectes. Nous étions avec Daniel Mermet en 1995 dans la basse Si j'y suis, dans un temple Jain en Inde. Frédéric Lenoir, dans votre ouvrage Les chemins du sacré aux éditions de l'Observatoire, qui est d'ailleurs en fait le carnet de voyage d'une série de tournages qui a eu lieu pour des tournages documentaires pour Arte.
Oui, tout à fait. Pour rappeler le contexte dans lequel c'est fait, c'est important effectivement. Se sont faits ces voyages assez extraordinaires. J'aurais jamais pu faire ça tout seul. Et donc en fait, c'est Arte qui nous a commandé une série documentaire qui s'appelle Les chemins du sacré. L'ouvrage porte le même titre. Laquelle série va être diffusée au printemps. Donc, on ne sait pas encore quand, mais on est encore en montage. Et en fait, il s'agissait effectivement d'aller faire un tour du monde. Ouais. Donc, j'étais sur les 5 continents. J'ai fait plus de 17 pays dans lesquels il s'agissait de rencontrer des gens qui font cette expérience du sacré de manière extrêmement diverse. Et j'en ai fait un livre de photos que vous avez cité avec un récit de voyage.
Ouais. Et dont parmi ces voyages, il y avait cette rencontre avec les Jains. Alors, avec le bouddhisme et l'hindouisme, le jainisme est une des autres grandes religions de l'Inde qu'on connaît un peu moins. Et on l'entendait à l'instant dans cet extrait, le respect des Jains pour le vivant va très loin.
Oui, oui, ce sont presque des extrémistes, on pourrait dire des intégristes de la non-violence.
Oui.
Puisqu'ils veulent appliquer la non-violence absolue, c'est d'ailleurs essayer de ne tuer aucun être vivant, y compris les insectes, les fourmis, etc. Alors du coup, les Jains les plus extrêmes, les nonnes et les moines, et pas tous, mais certains d'entre eux, ont un petit balai devant pour enlever les insectes pour être sûr de ne pas les écraser. Oui. Ils mangent pas des légumes racines pour éviter de tuer, effectivement, tous les animaux qui vivent sous terre, donc ils sont totalement véganes au sens où on l'entend nous, mais ils vont plus loin.
Ouais. Alors, et vous dites même certains portent des masques, alors c'est devenu un peu une habitude chez nous,
ils portent des masques pour pas avaler des micro-organismes.
Ouais.
Moi j'ai beaucoup discuté avec eux parce que c'est des gens très non-violents, etc. Donc ils sont extrêmement touchants. En même temps, je leur dis, mais c'est sans fin.
Ouais.
Parce que de toute façon, vous allez toujours, malgré vous, tuer un organisme vivant, marcher sur un tout petit insecte, etc. Ils me disent oui, mais au moins, on aura tout fait pour l'éviter.
Ouais.
Donc voilà cette logique de non-violence absolue. Alors rappelons qu'effectivement, le jainisme est né, en fait, c'est contemporain du Bouddha. Mahavira, le fondateur, a vécu en même temps que le Bouddha, à peu près, et c'est donc une des grandes traditions de sagesse de l'Inde, qui est très ancienne, mais les Jains sont très peu nombreux, puisque cette pratique est tellement exigeante qu'il y a très peu de gens qui le suivent, ce qui fait que c'est une des plus petites religions du monde.
Et parmi les préceptes, il y a aussi, au moins une fois dans leur vie, ils doivent faire un grand pèlerinage.
Ils marchent beaucoup, les Jains.
Ouais.
Alors, tout en faisant attention à écraser personne, mais ils marchent beaucoup. Et ils marchent justement pour être dans le détachement.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'on a rencontré pour les tournages, c'était assez exceptionnel, c'est des rencontres pas programmées sur place. On a rencontré deux jeunes filles de 20 ans, ravissantes, qui avaient décidé de devenir nonnes. Et elles veulent consacrer toute leur vie à ne faire que marcher. C'est-à-dire, elles n'ont aucun lieu, elles quittent leur famille, aucun lieu où dormir régulièrement. Elles mendient leur nourriture et elles vont dormir tous les jours de lieu en lieu, comme ça, en mendiant leur nourriture. Et donc, je me dis, c'est quand même assez extraordinaire, ces jeunes femmes qui ont envie de consacrer toute leur vie à ça. Et elles me disent, on marche tout le temps comme ça pour être détachées. On ne veut pas s'attacher à une famille, on ne veut pas s'attacher à une maison. Ça nous enseigne que, au fond, La vie sur Terre, c'est comme un pèlerinage. Ouais. On doit marcher, marcher. Et ce qui compte, c'est le chemin. Et on ne doit pas s'installer.
Alors, votre quête sur les chemins du sacré vous a conduit sur plusieurs chemins de pèlerinage, hein, aussi bien en Éthiopie, au Japon, et puis aussi sur les chemins de Compostelle. L'écrivain Jean-Christophe Ruffin a fait cette longue marche vers Compostelle. Il l'a raconté dans un livre, Immortelle randonnée. Le voici évoquant le lien qui s'est créé au fil des jours entre lui et ce chemin.
Il y a une force sur ce chemin, indiscutablement. Il se passe des tas de choses dans la tête du marcheur. C'est-à-dire que le marcheur se transforme. Alors, il commence par s'occuper de son corps. Après, voilà, il est attiré par les monuments. Puis il y a un moment où finalement, il se détache de tout. Et au fond, il y a une sorte de dialogue qui s'établit avec ce chemin. Il vous parle. Quand on est fatigué, qu'on a envie de s'arrêter, le chemin vous dit non, tu continues. C'est très curieux. On est dans un état un peu second, on va dire. Vous voyez, le chemin, bien sûr, il est catholique dans son origine, bien sûr, et religieux, donc. Mais en fait, il ne vous dit rien de Dieu directement. C'est-à-dire, c'est pas un chemin qui vous convertit. C'est un chemin qui approfondit votre sensibilité spirituelle, qui fait que si vous êtes croyant, vous l'êtes encore plus. Si vous ne l'êtes pas, vous ne le devenez pas pour autant. Mais vous approfondissez vraiment votre sensibilité, et c'est ce qui fait que ce chemin est, à mon sens, proche de tous les grands pèlerinages du monde, et en particulier asiatiques, si vous voulez, qui correspondent à des croyances différentes, mais qui, au fond, obéissent à un mécanisme identique.
Jean-Christophe Ruffin, dans Carnet Nomade sur France Culture en 2013. Frédéric Lenoir, vous êtes d'accord avec ce lien qu'il fait entre le pèlerinage de Compostelle et puis les grands pèlerinages asiatiques ?
Oui, bien sûr, on trouve partout, c'est une des dimensions anthropologiques fondamentales qu'on retrouve dans cette quête du sacré, il y a la marche, et on retrouve ça partout, c'est tout à fait universel, et ça, on peut être, encore une fois, il l'a très bien dit, et ou religieux ou laïque, peu importe, ce qui compte c'est de cheminer, ce qui compte c'est d'être surpris, ce qui compte c'est d'être chaque jour, de tout remettre en cause, et puis on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas si on va tenir ou pas, et je pense que dans cette marche, ça nous dit des choses très profondes d'ailleurs sur l'être humain. Et moi, j'ai toujours été frappé. J'ai fait un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha. Ouais. C'est trois maîtres de vie, voilà, qui m'ont beaucoup marqué.
Ce sont
dans
vos trois maîtres de vie.
Bon, j'ai rajouté Spinoza depuis. Mais bien. À l'époque, il y a 10 ans, il y avait Socrate, Jésus, Bouddha. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce sont trois personnes qui ont passé leur temps à marcher. Ouais. Alors, celui qui a le moins marché, mais marchait quand même beaucoup, c'est Socrate, mais dans les rues d'Athènes. Ouais. Il était jamais chez lui, hein. Il était tout le temps dans la rue. Ensuite, Jésus, on sait qu'il marchait sans arrêt. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. C'est-à-dire qu'il était tout le temps sur les chemins de Palestine. Et puis, Bouddha, il a passé sa vie 40 ans à marcher dans tout le nord de l'Inde. Et donc, je me suis dit, pourquoi ces trois maîtres spirituels ont tout le temps marché? Autre point commun, ils n'ont rien écrit. Pourquoi ils ont tout le temps marché? Pourquoi ils n'ont rien écrit? Et je crois que ça veut nous dire que la pensée doit être tout le temps en mouvement. C'est que de même que le corps est en mouvement, la pensée doit être tout le temps en mouvement. Il ne faut pas se figer dans des dogmes, dans des certitudes. Au fond, le philosophe, le sage, est celui qui est toujours en chemin.
Oui, alors, il faut être en mouvement, en tout cas la pensée doit être en mouvement. Pourtant, certains font le choix de l'immobilité, d'une immobilité drastique. Vous êtes aussi allé leur rendre visite, hein. Vous êtes allé à la rencontre de moines ou d'ermites qui avaient fait le choix d'une solitude radicale, notamment en Éthiopie, un pays qui vous a beaucoup plu.
C'était mon coup de cœur.
Ouais, très bien.
Pourtant, j'en ai rencontré des beaux. Mais là, ce pays-là que je connaissais pas, d'ailleurs, c'est Nicolas Hulot m'avait dit, je lui ai posé la question, et je lui avais dit, dans tous les voyages que tu as fait, je crois que c'est un des Français qui a le plus voyagé au monde, quel pays t'a le plus marqué? Et il a pas hésité, il m'a dit l'Éthiopie. À la fois pour la beauté des paysages et la beauté des gens. Et c'est vrai. Là, j'ai passé 3 semaines en Éthiopie, à la fois dans le sud, qui est plutôt musulman, et dans le nord, qui est plutôt chrétien. Et franchement, j'ai été bouleversé. Et encore une fois, par la beauté des paysages et par les personnes magnifiques que j'ai rencontrées. Les gens sont d'une gentillesse, d'un accueil. Ils sont très pauvres, mais ils ont un cœur extrêmement ouvert. Ils aiment rencontrer les gens, discuter avec eux, sont très ouverts. Et là, j'ai photographié notamment beaucoup d'enfants qui se laissaient photographier avec des sourires extraordinaires. Enfin, j'ai eu un bonheur à rencontrer les Éthiopiens. Et d'ailleurs, c'est un peu dramatique puisque on a fait tout un reportage qui se trouve dans le Tigré, qui est la région du Nord, où il y a une guerre civile actuellement, et on pense que les gens qu'on a rencontrés sont peut-être morts aujourd'hui.
Ouais. Alors effectivement, c'est dramatique, mais parmi les gens que vous avez rencontrés dans le Tigré, il y avait cet ermite absolument touchant et qui intrigue, parce qu'il est monté en haut de sa montagne.
Il avait 13 ans.
Il avait 13 ans.
Il est orphelin.
Il n'en est jamais redescendu. Il a aujourd'hui
84 ans.
Qu'est-ce qu'il fait sur cette montagne?
Ben, c'est son histoire, c'est-à-dire que c'est un, il est orphelin. On l'a conduit auprès d'un vieil ermite qui vivait sur la montagne, qui l'a servi, et puis il est resté. Il est devenu moine, il est devenu ermite à son tour. Et là, il nous racontait pendant qu'on le filmait qu'il était en train de construire sa tombe. Donc voilà, il mourra là, et il est très heureux comme ça. Alors c'est un peu son choix personnel lié à, évidemment, une histoire particulière. Et en même temps, ça fait partie de ces nombreux ermites qui existent dans le monde entier, qui ont fait un choix de solitude absolue pour se rapprocher de Dieu. Donc lui, son choix, c'est de dire j'ai trouvé en Dieu ma joie, le sens de ma vie, et je veux consacrer l'essentiel de mon temps à la solitude pour pouvoir prier, pouvoir méditer, pouvoir lire les textes sacrés. Et il vit dans une grotte, c'est extrêmement simple, mais c'est d'une beauté. Alors là aussi, les paysages, je me suis régalé, là, moi qui aime la photo, c'était vraiment ces montagnes rocheuses, on dirait le Grand Canyon du Colorado, si vous voulez, avec plus de végétation, enfin c'est d'une beauté absolue. Le Tigré, ouais. c'est vraiment une des plus belles régions du monde.
Une vie ascétique de près de 70 années, hein, quand même, les chemins du sacré sont parfois vertigineux. On poursuit notre route avec vous, Frédéric Lenoir, avec, dans un instant, une escale en Inde pour assister à des joutes philosophiques. Vous écoutez Le Temps d'un bivouac sur France Inter.
Faut que j'envoie ces lettres, faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été, trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai, et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit, je vais répondre oui mais que je sais plus, puis faudra que je pense à samedi, j'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres, et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre, pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours que demain, je la contacterai c'est certain, et que je lui donnerai mon avis, sur ce truc là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien, et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau, et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau, ça va être nul, et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend, tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent, moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste,
quand je marche, c'était Ben Mazoué sur France Inter.
Quel est pour vous le bonheur suprême?
Supreme happiness. I have no experience. But to me, best according to my...
Je n'ai aucune expérience du bonheur suprême.
My capacity, I think.
mais dans la mesure de mes capacités, la plus grande satisfaction, je la ressens lorsque je vois des gens ou des animaux qui participent pleinement dans une ambiance de compassion, d'amitié, d'harmonie, de responsabilité partagée, qui s'occupent les uns des autres, avec beaucoup de sincérité et de respect. Alors, je me sens bien heureux. Même les petits insectes qui travaillent allègrement ensemble, cela me rend heureux.
Une voix que notre invité Frédéric Lenoir connaît bien, c'est celle du Dalaï Lama. Vous l'avez rencontré une vingtaine de fois. Comment s'est passée votre première rencontre avec le Dalaï Lama, Frédéric Lenoir ?
Eh ben, je crois que c'était sur France Inter.
C'est vrai ?
Tout simplement parce que j'ai fait un doctorat sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, qui m'a amené à travailler, à réfléchir à cette question. Pourquoi est-ce que le bouddhisme se développe en Occident ? Puis ça date du 19e siècle, c'est une vieille histoire. Et du coup, je suis devenu un peu un spécialiste du bouddhisme et je me souviens que France Inter m'avait demandé, lorsqu'il était venu en France en 1993, de faire un grand entretien d'une heure avec lui. Ah oui. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Après, j'ai fait d'autres entretiens.
J'avoue que je ne connaissais pas la réponse. Je croyais que vous alliez m'emmener à Dharamsala.
Ça, c'est la première rencontre avec le Dalaï Lama. Après, j'étais intéressé par le bouddhisme et le bouddhisme tibétain depuis l'adolescence. Oui. Donc, à 20 ans, j'ai été passé 2 mois à Dharamsala, la ville où il est réfugié dans le nord de l'Inde. Et j'ai appris à méditer avec les lamas tibétains. Mais je n'avais pas rencontré le Dalaï Lama. Je l'ai rencontré 10 ans plus tard, lorsque j'ai fait ce doctorat. Et ensuite, il y a un lien qui s'est créé, puis j'ai écrit plusieurs livres sur le Tibet. Donc je suis retourné plusieurs fois Dharamsala pour le rencontrer en tête à tête et faire des interviews avec lui pour ses bouquins. Ce qui d'ailleurs m'a valu d'être persona non grata en Chine.
Vous n'avez plus le droit d'aller en Chine aujourd'hui.
Je ne peux pas aller en Chine. Ouais. Chaque fois, on me refuse le visa.
Je
sais très bien trop proche de la cause tibétaine et du Dalaï Lama.
Qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce que vous retirez Vous avez discuté de longues heures avec le Dalaï Lama. On est au-delà de l'interview, c'est vraiment des rencontres importantes.
C'est un homme qui m'a bouleversé. J'ai rencontré beaucoup de personnalités, religieuses, comme l'abbé Pierre, Jean-Paul II, Mère Thérèse, etc. Et c'est vraiment le Dalaï Lama qui m'a le plus frappé par son humanité, la qualité de présence qu'il a avec ses interlocuteurs. Mmh. On a l'impression qu'il vous connaît depuis toujours, même s'il vous a oublié, vous avez l'impression qu'il vous a jamais oublié, et il rit tout le temps, il est comme un enfant. Pour moi, c'est vraiment... un sage réalisé, comme il n'y en a sans doute pas beaucoup. Mmh. Et c'est toujours un bonheur de le retrouver.
Alors le Dalaï Lama a œuvré pour que les nonnes bouddhistes puissent participer aux joutes philosophiques, pratiquées depuis longtemps par les moines. Mais maintenant, elles y ont elles aussi accès pour participer à ces joutes philosophiques et apprendre l'art de débattre à Dharamsala, dans la nonnerie de Yamyang Choning. Elles viennent de très loin, du Népal, du Tibet ou encore du Bhoutan.
Ici, nous sommes 39 nonnes de la nonnerie du monastère de Kopan. Le 14, nous devons débattre au sujet des vies antérieures et des vies futures. C'est le thème principal du débat. Nous devons lire tellement d'ouvrages qui donnent différentes explications. Il y a tellement d'interprétations des mots. C'est très difficile.
Je prouve ainsi que ton argument n'est pas bon. Il ne s'applique pas exclusivement au sujet. Ton argument est faux. C'est ainsi. C'en est fini.
Oui, mais il n'y a pas d'implication.
C'est faux. Tu dois recommencer au début.
Mais j'y suis là, j'y suis.
Un extrait du documentaire Les nonnes philosophes, diffusé sur France 2 en 2009. On trouve aussi dans votre ouvrage, Frédéric Lenoir, Les chemins du sacré, de très jolies photographies que vous avez prises vous-même de ces nonnes en train de débattre. On en a mis une, avec votre permission, sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour qu'on puisse voir ces nonnes en train de débattre. Il y a toute une gestuelle.
Ah oui, c'est très spectaculaire. En fait, effectivement, vous avez raison de rappeler que c'est d'ailleurs le Dalaï Lama qui a demandé que les femmes puissent faire des doctorats de philosophie et débattre comme les hommes, alors, parce que le Tibet était une société quand même assez misogyne. Et là, effectivement, il a ouvert cette égalité homme-femme dans les voies monastiques. Et les femmes qu'on a vues là, Dharamsala, elles passent leur temps dehors à faire des joutes philosophiques, comme ça existait d'ailleurs au Moyen-Âge en Occident. Il y avait des joutes philosophiques. Et là, ce qui est spectaculaire, c'est qu'elles unissent le geste à la parole. Et donc, on les voit qui claquent dans les mains, qui montrent du doigt, qui se moquent, oui, qui rient. C'est extrêmement joyeux.
C'est ça, c'est ce qui est frappant, c'est que c'est extrêmement joyeux, alors que c'est en même temps très codifié. Il y a un cérémonial. Elles veulent accéder à la sagesse, et pourtant, ça se fait avec des moqueries, du rire. C'est
de
très
l'ironie.
Vivant.
C'est l'ironie socratique qui est très présente, et se moque de leur interlocuteur pour le déstabiliser, voir comment il va réagir. Et puis, le fait qu'elles bougent beaucoup, elles se balancent d'avant en arrière, elles tapent dans les mains, etc. C'est vraiment spectaculaire. Mmh. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lier cette dimension de la philosophie qui est très cérébrale avec le corps, ouais, avec les émotions. Et donc là, vraiment, c'est un art complet de la réflexion qui s'incarne dans le corps et dans l'échange et dans le débat. Et donc, c'est vrai qu'il faut assister à ça une fois dans sa vie, ouais, ça vaut la peine.
Ouais. Et la façon dont les connaissances sont transmises dans le monde, au-delà de cet exemple-là, vous intéresse, hein, Frédéric Lenoir. Pour recréer, vous parliez de votre association Sève, Savoir-être et Vivre Ensemble, qui propose des ateliers dans les écoles,
avec les enfants,
de philosophie et de méditation avec les enfants.
Tout à fait.
Avant de lancer ce projet, cette association, vous avez fait là encore un grand voyage, un tour du monde de la francophonie, pour voir comment on enseignait ailleurs.
Oui, ben j'aime voyager, vous l'avez compris.
Oui, c'est pour ça qu'on vous a invité.
Et donc, c'est vrai que quand j'ai découvert, ça fait des années que je disais dans mes conférences, on devrait commencer la philosophie à l'âge de 6 ans, parce que les enfants sont des petits philosophes. Et puis, il faut développer en eux cet art de la question, du débat, de l'écoute, de l'argumentation, du raisonnement. Et en fait, j'ai découvert que ça existait. Ça a été inventé par Matthew Lipman à la fin des années 60, un pédagogue américain. Et donc, il y a 70 pays aujourd'hui qui pratiquent la philo avec les enfants. Et du coup, j'ai fait ce tour du monde, entre guillemets, pour découvrir les différentes méthodes, les différentes pratiques, pratiquer moi-même avec des enfants dans des écoles et des cultures très différentes, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Canada, etc. Et ça m'a vraiment enrichi. J'en ai fait un livre qui s'appelle « Philosopher et méditer avec les enfants », parce que j'ai rajouté la méditation à la philo. Ouais. Je me suis rendu compte que les enfants étaient très agités, ils avaient du mal à être attentifs. Ouais. On sait aujourd'hui à quel point ils n'arrivent pas à rester plus de 8 secondes attentifs. Ouais. Et du coup, pour les calmer, pour leur permettre d'être présents à l'atelier philo, je les fais méditer quelques minutes avant, de la pleine conscience, et ça a très très bien marché. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, dans les ateliers Sève, dans les écoles en France, on en a déjà touché plus de 200 000 enfants, on développe ces ateliers de méditation et de philosophie.
Peut-être un jour, après la méditation, leur apprendrez-vous la danse. Je dis ça parce que dans votre livre, Les Chemins du Sacré, Frédéric Lenoir, vous terminez en Turquie, avec une danse qui est plus qu'une danse pour ceux qui la pratiquent.
C'est une piste sacrée. Et ici, on tourne. Ça s'appelle la danse des derviches tourneurs. Ce n'est pas une danse, c'est une prière, c'est une méditation. Mais avec des mouvements. Hein? Ils ne sont pas immobiles. Ils sont en méditation, ils sont en prière, ils sont dans l'état de processus. Et ils pensent à Dieu et ils tournent. C'est une extase. Extase mystique divine.
Frédéric Lenoir, voilà une expérience intense du sacré, une de plus. Racontez-nous l'histoire de cette danse rituelle, celle des derviches tourneurs.
Eh bien, en fait, les derviches tourneurs, c'est une confrérie soufie, hein, qui est le courant mystique et spirituel de l'islam, parce qu'on parle beaucoup de l'islam à travers son visage le pire, c'est-à-dire le visage évidemment du terrorisme, mais il y a un islam spirituel, mystique, qui est très touchant, moi qui m'intéresse depuis l'adolescence, puisque je lisais déjà les poèmes de Rumi. Pour ceux qui connaissent pas Rumi, jetez-vous sur Rumi, c'est un des plus grands poètes de tous les temps. Et donc Rumi a fondé les derviches tourneurs, c'est-à-dire c'est une confrérie, 13e siècle, c'est une confrérie de gens qui, à travers la danse, donc là à nouveau le lien entre le corps et l'esprit dont on parlait chez les bouddhistes, à travers la danse cherche à atteindre un état d'extase, c'est-à-dire d'union, de rencontre avec le divin. Mais c'est extrêmement codifié, c'est-à-dire que c'est pas simplement de la danse où on tourne en rond n'importe comment. En fait, ce que j'ai découvert, je ne le savais pas en allant faire ce reportage à Konya en Turquie, c'est un peu le berceau des derviches tourneurs et c'est là qu'est enterré Rumi, on a son mausolée. Eh bien, j'ai découvert qu'en fait les danseurs faisaient comme une sorte sorte de, d'image du cosmos. Et il y en avait un qui représentait le Soleil, l'autre la Lune, et les autres les planètes qui tournent autour du Soleil. Mmh. Et donc c'est très très important de connaître tous les codes pour comprendre ce qui se passe. Alors ce qu'on voit nous, sans rien connaître, c'est qu'on voit des gens qui tournent sur eux-mêmes, avec ces tenues blanches là magnifiques, et donc c'est très beau, hein, esthétiquement c'est magnifique, la musique est très belle, la musique soufie avec la flûte, le tambour, etc. Et à travers cette danse très codifiée, en même temps, ils atteignent un état d'ivresse intérieure. Hein. Ouais. Rumi nous parle de l'ivresse mystique dans lequel ils n'essayent de ne plus faire qu'un avec Dieu.
Alors ce voyage en Turquie pour la série documentaire Les Chemins du Sacré, qui sera diffusée dans quelques mois hein, sur Arte, était le dernier. C'est-à-dire que c'était en mars dernier, juste avant le confinement, vous avez pu finir l'ensemble de ces tournages. Qu'est-ce qui vous reste un an après de ces rencontres ? Frédéric Lenoir.
Mais elles se sont prolongées parce qu'avec mes deux co-réalisateurs, Victor Bruno Pugebet et Timothée Janssen, on a fait un an de montage. Donc finalement,
ouais, elles se sont c'était pas mal. Au moment du confinement, vous étiez tranquille pour
un
faire
an de préparation, un an de tournage, un an de montage. Et donc, on est resté confiné devant l'étape de montage dans lequel on a évidemment revécu toutes ces rencontres, digéré, analysé. Et puis, vous savez, c'est dur de couper hein, parce que quand vous voyez toutes les merveilles qu'on a rencontrées, donc je suis encore en plein dedans, puisqu'on vient tout juste de finir le montage.
Merci Frédéric Lenoir. Votre livre, en attendant de voir la série documentaire, votre livre s'intitule « Les chemins du sacré » aux éditions de l'Observatoire. Et puis dans quelques mois, au printemps, on ne sait pas encore quand exactement, sur Arte, la série documentaire. Vous restez avec nous, Frédéric Lenoir, dans un instant, le temps d'un bivouac, plante sa tente en Bretagne, au sommet des montagnes. Oui, oui, des montagnes, en Bretagne.
Si el tiempo no pasara, yo solo vivo de ilusión. Son tantos los sueños que tengo, no caben en una canción. Un día tiene su fin, todo
Tiene Soufine, c'était Dom La Nena sur France Inter. La programmation musicale est signée Muriel Pérez.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est mon heure préférée, ouais. Le lever du jour. On est en plein cœur des Monts d'Arrée, puis la brume qui se lève. Il y a l'ambiance. Alors là, on a une vue sur le Mont Saint-Michel. De ce côté-là, on a un rocher qu'on appelle le rocher des exorcismes, c'est le roc Cléguer. C'est de là que démarraient tous les grands exorcismes dans le temps. Alors après, sur la droite, un peu, on a ce fameux Tushenkador qui, lui, est naturellement le point le plus haut. Et c'est là que vient se reposer l'encou la nuit et surveiller tout son territoire qui s'étend sur la Cornouaille, le Trégor et puis le Léon.
Dénez Prigent chante les chemins merveilleux. Nous voilà arrivés en Bretagne intérieure. Juste avant Dénez Prigent, sur les monts d'Arrée, nous entendions la voix du regretté conteur Claude Lelanne en 2001. Pour nous emmener à la découverte de ces monts bretons, nous a rejoint Nicolas Legendre. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez de publier L'Himalaya breton aux éditions du Coin de la Rue, un road trip poétique et curieux qui nous emmène du Mont Dol au Mont d'Arrée en passant par le massif de Pimpon. On parcourt à vos côtés avec bonheur cette Bretagne intérieure dans laquelle vous gravissez des montagnes. Car vous l'affirmez, dire qu'il n'existe pas de montagne en Bretagne, c'est méconnaître la région. Expliquez-nous.
Oui, d'abord, c'est la géologie hein, qui nous donne des indications. C'est-à-dire qu'il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait là, dans le massif armoricain, une cordillère qui atteignait 4 à 6000 mètres d'altitude. La géologie a fait son travail depuis. Et c'est vrai que ces sommets, ces hauteurs, ces hautes collines, on pourrait dire, armoricaines, ont gardé quelque chose de montagnard, à la fois dans leur relief. Et puis, tout ça s'est traduit aussi dans le rapport que les humains qui habitent ces lieux ont entretenu avec eux. Notamment en les sacralisant.
Vous dites hein, le climat pour nous persuader un peu qu'on est bien, on a bien affaire là, certes des montagnes anciennes, mais des montagnes tout de même. Le climat change sur les hauteurs, il ne fait pas tout à fait le même climat. Le vent souffle plus fort sur les monts bretons.
Ouais, on a des conditions qui sont particulièrement difficiles, notamment en haut des monts d'Arrée, avec une pluviométrie forte, beaucoup de vent, et on a des indications aussi au niveau de la flore, par exemple, avec une flore des plantes qui se rapprochent qu'on ne trouve ailleurs en France que dans les montagnes, et tout ça contribue à donner à certains sommets bretons leur caractère véritablement montagnard, même si on a altitude faible, puisqu'on ça culmine à 385 mètres d'altitude environ.
Ouais. 385 mètres, à mettre en regard tout de même, vous disiez entre 4000 et 6000 mètres, hein, il y a plus de 250 millions d'années, mais dans votre ouvrage, vous êtes même vous allez plus haut, si j'ose dire, puisque vous dites il y avait là des montagnes qui allaient jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Hein. C'est vraiment, il y a eu en son temps un Himalaya breton. Alors à ce moment-là, la Bretagne, en tout cas ce qui deviendra la Bretagne, se trouvait au niveau de l'équateur. On est vraiment à une autre époque.
Oui, oui. Juste pour préciser, a priori, parce qu'on n'est pas certain de tout ça, les géologues ont que des indications assez vagues. Les 8000 mètres n'étaient pas au niveau du massif armoricain, donc c'était plutôt 4 à 6000 mètres. Enfin, tout ça, c'est beaucoup tassé depuis, de toute façon.
D'accord. Alors les Bretons, d'ailleurs, dans le nom même, dans la toponymie, le nom des lieux, on retrouve hein, cette notion de montagne. Alors Menaise, Minet, Méné, Minaise, Manet, tout ça, ça signifie montagne.
Tout ça, ça signifie montagne, et ça montre en fait comment les Bretons, à travers les âges, ont considéré ces hauteurs. Et ça montre qu'ils les ont considérées comme de véritables montagnes. C'était leur montagne à eux, en fait. Un élément important, c'est qu'ils les ont sacralisées pour bon nombre d'entre elles. C'est le cas du Ménéum, ça a été le cas de la montagne Saint-Michel de Brasparts, ça a été le cas du Mont Dol. Ils ont ressenti depuis des milliers d'années, les peuples qui occupaient ces territoires, des choses particulières, des vibrations particulières en foulant ces lieux, tant et si bien qu'ils les ont sacralisés, comme d'autres peuples aux quatre coins du monde ont sacralisé leurs montagnes, ça peut être les indigènes d'Australie par exemple, ou les Mongols avec le Burhan Khaldun, où aurait été enterré Genghis Khan.
Ouais, le sacré, on y revient dans cette émission. Et vous, dans votre périple, dans votre marche sur ces monts bretons, vous êtes passé par ces lieux. Alors il y a les mégalithes, évidemment, que l'on connaît, mais et puis il y a aussi cette région, le massif de Pimpon, où on trouve la forêt de Brocéliande. Alors vous êtes en plus originaire du coin et vous êtes particulièrement sensible à ces vibrations. C'est vrai que dans cette forêt, eh bien, il se passe quelque chose.
Oui, il se trouve que la forêt de Paimpont se trouve sur un massif qui est l'un des points culminants de la Bretagne occidentale, donc de la Haute-Bretagne. Alors, forêt de Paimpont, sur laquelle a été plaquée, disons, la forêt de Brocéliande, avec des appropriations du folklore, etc., à tel point qu'on ne sait plus exactement ce qu'il en est, de la légende, du mythe, du business, du Corrigan, etc. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on a affaire à une hauteur, une petite montagne de Haute-Bretagne, et que et qu'on ressent des choses particulières quand même dans ces lieux, qu'on soit athée ou croyant ou pas, peu importe. Mais il y a un esprit des lieux en fait. Et ça, encore une fois, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est vrai également dans l'histoire, puisque on le voit, ces lieux ont été sacralisés, ont été jalonnés de mégalithes, de lieux saints chrétiens par la suite.
Nicolas Legendre, tout au long de votre périple dans cette Bretagne intérieure, vous vous intéressez aussi à l'histoire récente et à la façon dont les paysages ont évolué au cours du dernier siècle.
Oui, parce que les montagnes bretonnes sont vraiment des promontoires en fait qui permettent déjà d'avoir des vues, des panoramas souvent dantesques, mais c'est aussi c'est une fenêtre sur la Bretagne intérieure, sur le ce qu'on appelle le Kreisbreiz, sur son évolution récente, et on a affaire là à des paysages qui ont été littéralement transfigurés en fait ces 100 dernières années du fait des révolutions agricoles, du fait du remembrement. Ça a été la disparition d'un certain nombre de zones humides, de landes, de haies, de talus, bien sûr, le drainage de terre, et tout ça de façon parfois extrême, avec des paysages qui ont été en partie massacrés, en fait. Bien qu'il reste, ça et là, des havres dans lesquels moi j'aime à me promener.
Oui. Vous nous en livrez quelques-uns de ces havres préservés, là où la Bretagne ressemble, en tout cas les paysages ressemblent encore à ce qu'ils étaient il y a 100 ans.
Oui, je peux citer par exemple les gorges du Daoulas auprès du lac de Garlédan, les gorges de Poulancre également, qui sont des endroits assez peu fréquentés mais vraiment splendides. Et puis moi j'aime particulièrement les monts d'Arrée, bien sûr, qui sont quand même assez connus maintenant, avec l'un de leurs sommets, le Tuchen-Cador, et puis le Ménéum, qui est sans doute le plus beau sommet breton, qui domine la presqu'île de Crozon. On voit la mer, c'est absolument splendide.
Nicolas Legendre, pour terminer, en 30 secondes, votre métier de journaliste vous a amené à voyager loin. Vous avez, par exemple, traversé le Kazakhstan. Mais ce livre fait l'éloge de l'aventure de proximité. Vous avez grandi, je l'ai dit, en Bretagne, et vous semblez vivre cette traversée de la Bretagne intérieure comme une véritable exploration, avec un œil émerveillé.
Ouais, c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on peut, je pense qu'on peut vivre des épopées à côté de chez soi, en fait, en s'émerveillant sur la beauté d'une plante, sur la différence qu'il peut y avoir entre la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne. On change de langue, des toponymies différentes. Et j'ai toujours l'impression, quand je me promène en Bretagne, de faire un voyage, en fait. Et c'est l'idée aussi de ce livre, ouais, c'est un éloge du voyage près de chez soi.
Bien, juste une petite réaction de 15 secondes, Frédéric Lenoir.
C'est vrai qu'il y a des lieux, des terres qui éveillent plus particulièrement ce sentiment du sacré. Ouais. Et la Bretagne a quelque chose de très magique. Hein. Ouais. Moi, j'adore aussi la Bretagne. Il y a des lieux en France comme ça, dans lesquels on se promène et on sent toute la magie. Et ça a souvent été dans le passé des terres de légende.
Je rappelle le titre de votre livre, très agréable à lire, L'Himalaya breton, illustré par les aquarelles de la carnétiste Joël Bockel. C'est aux éditions du Coin de la Rue. Un grand merci à vous, Nicolas Legendre.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci pour les messages que vous nous laissez sur la page de Facebook du temps d'un bivouac et sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.